Avec Isabelle Falardeau, on parle de microbiome intestinal, un texte de Jean-Benoît Legault.
Oui, tout à fait, dans la presse canadienne. Donc, c'est paru en décembre, le 30 décembre. Donc, avant de commencer, je vais juste essayer de faire un petit peu la différence entre microbiome et microbiote. La meilleure définition ou comparaison que j'ai trouvée, c'est sur le site biocodexmicrobiotainstitute.com. Donc, c'est un site qui explique des termes. Donc, le titre de cet article-là, flore, microbiote, microbiome, faux amis et vrais synonymes. En gros, le microbiote,
Se fait attendre.
C'est ça, se fait attendre. Donc, ça désigne toutes les communautés de micro-organismes. Les micro-organismes qui sont présents, donc il y a le microbiote intestinal, donc ça va être les micro-organismes, donc les bactéries, mais aussi les autres micro-organismes qui vivent dans cet endroit-là. Et le microbiome, c'est l'ensemble des micro-organismes, mais aussi leurs fonctions. Donc, l'analogie qu'on donne ici, c'est par exemple, l'analogie du village, là, je l'avais trouvée. Donc, si on veut faire une comparaison avec un village, donc le microbiote serait la liste des habitants et le microbiome, la liste de ce que tous les individus collectivement savent faire, comme fabriquer du pain, construire une maison, etc. Donc, la plupart du temps, quand on va trouver le terme dans un article qui parle de ce qu'on appelait avant la flore intestinale, mais ça va être le microbiote. Alors, mais dans l'article que j'ai trouvé, parce qu'en anglais, souvent, on utilise les deux termes indifféremment, et c'est traduit de l'anglais. En fait, le texte n'est pas traduit de l'anglais, mais il utilise des citations. Se base sur une étude, voilà, versée sur tirée de la revue Nature, donc publiée en anglais. Alors,
on va essayer de vous suivre.
Je suis désolée, mais l'auteur de l'article utilise microbiome et microbiote de façon aléatoire, mais toujours pour ce que nous, on appelle le microbiote en français. Alors, c'est des chercheurs italiens donc, qui ont publié un premier portrait de ce qui pourrait constituer un microbiote intestinal en santé, c'est-à-dire quel mélange de bactéries témoigne, entre autres, avec fiabilité, d'une faible inflammation et d'un système immunitaire en santé, et aussi d'un niveau de cholestérol sain. Donc, des marqueurs qui sont souvent associés à une bonne santé. C'est une étude qui est commentée qui a été commentée pour l'article par le professeur Frédéric Raymond, qui est un spécialiste du microbiome intestinal ou microbiote intestinal à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Et donc, ça apporte certains éléments de réponse à une question qui revient constamment quand on étudie le microbiote intestinal. Est-ce que les bactéries qui augmentent ou diminuent sont associées à la santé ou à la maladie? Ou est-ce que c'est entre les deux? Donc, est-ce que ça change rien? Ou est-ce qu'il y a des bactéries qui sont associées à la santé puis d'autres à la maladie? Puis quand certaines augmentent ou certaines baissent, est-ce que ça a un impact sur notre santé? Donc, c'est vraiment la question qui est la plus intéressante pour nous. Et les auteurs de l'étude ont identifié des biomarqueurs d'un microbiote en santé et des biomarqueurs d'un microbiote qui le serait moins. Et quand on parle de microbiote, on va voir dans certains cas certaines bactéries qui sont statistiquement associées aux personnes qui ont un tour de taille plus faible, aux personnes qui ont un tour de taille plus élevé. Mais après ça, on se pose toujours des questions à savoir, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment un signe de bonne santé ou non? C'est une équipe de l'Université de Trente qui a étudié des données provenant de 34 500 personnes, donc c'est quand même une bonne quantité de personnes, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce sont des personnes qui ont participé au programme PREDICT. C'est une firme privée Zoé, qui se spécialise dans l'analyse du microbiome. Et les chercheurs se sont concentrés plus spécifiement sur les 661 espèces bactériennes qui sont présentes chez plus de 20 % des participants. Parce qu'il y a vraiment des milliers d'espèces là, de bactéries, donc on s'est concentré sur celles qu'on retrouvait le plus fréquemment. Donc, ça a permis d'identifier les 50 qui étaient les plus étroitement associées à une bonne santé. telles que mesurées par des marqueurs comme la glycémie et l'indice de masse corporelle, mais aussi les 50 les plus étroitement associés à des problèmes de santé. Donc, on a quand même réussi à identifier d'un côté comme de l'autre. Il y a 22 des 50 espèces bactériennes qu'on a associées à une bonne santé qui n'avaient jamais été identifiées auparavant. Et elle semblait plus spécifiquement impliquée dans 4 domaines. Les niveaux de cholestérol, la santé immunitaire et inflammatoire, la distribution de graisse dans l'organisme et le contrôle de la glycémie. Et on dit aussi que la science ne sait presque rien de 24 des 28 espèces restantes. Donc, il y en avait 50 là, qu'on a associé à une bonne santé. Il y en avait 22 qu'on n'avait jamais identifié auparavant. Puis, il y en a 24 dont on ne sait pas grand-chose. Fait que, on reste quand même avec beaucoup de questions, mais on a quand même apporté certaines réponses. Il y a 44 des 50 espèces bactériennes qui étaient associées à une moins bonne santé de leur côté, qui étaient connues et qui avaient précédemment été associées à des effets néfastes. Donc, on a quand même confirmé des informations qu'on avait. Par rapport aux bactéries qui sont associées à une mauvaise santé. Et les participants qui étaient jugés en santé parce qu'on ne leur connaissait pas de problèmes médicaux avaient environ 3,6 fois plus de bonnes bactéries que les autres participants. Et les participants qui avaient un poids santé, donc là, c'est un autre indicateur de bonne santé, non pas qu'on n'a pas de problème médical connu, mais qu'on a un poids santé. Donc, ces participants-là avaient 5,2 fois plus de bonnes bactéries que les participants en situation d'obésité. Donc, c'est associé à une bonne santé et c'est aussi associé à un poids qu'on considère, je vais mettre entre guillemets santé, là, parce que j'aime pas vraiment ça quand on commence à associer le poids à la santé. Mais les chercheurs, donc, ont constaté que la plupart des bactéries étaient associées soit à une alimentation généralement saine et à une meilleure santé, soit à une alimentation de moins bonne qualité et à une santé plus fragile. Donc, on a quand même identifié des choses des deux côtés. Mais il y a 65 des 661 bactéries. Si vous vous souvenez, là, les 661, c'est celles qu'on retrouve chez plus que 20 % des participants. Donc, il y en a 65 qui n'ont pas trouvé leur place dans cette analyse. Donc, la conclusion, c'est que la réalité est incroyablement complexe. Ça suggère qu'à l'intérieur d'une même famille de bactéries, il y a des bactéries qui peuvent être associées à une meilleure santé puis d'autres qui peuvent être associées à une moins bonne santé. Et ça, c'est vraiment intéressant, selon le professeur Raymond. Mais ça, quand même, ça dit qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Définir la composition de base du microbiome intestinal humain, donc dans des conditions saines chez l'autre, c'est un défi de longue date. C'est la conclusion des chercheurs italiens. Ou en fait, c'est ce que disent les chercheurs italiens, mais leur conclusion, c'est quand même qu'il reste encore beaucoup de choses à étudier. Et pour relever le défi, donc, de définir la composition du microbiome, ils ont reformulé la question de ce qu'est un microbiome ou microbiote associé à la santé en évaluant les espèces du microbiome intestinal en fonction de leur tendance à être corrélées avec des scores alimentaires sains et avec le continuum d'un panel de marqueurs intermédiaires de la santé cardio-métabolique dans des populations importantes et généralement en bonne santé. Ça, c'est cité directement de l'étude et c'est pour ça qu'on comprend absolument pas ce que ça veut dire. Mais je tenais à vous le lire textuellement pour ceux qui pourraient être plus intelligents que moi et le comprendre. Mais en gros, c'est que, c'est ça, ils ont identifié certaines informations, mais il reste encore beaucoup de choses à étudier. Et juste pour... j'ai pas regardé le temps, donc je sais pas, il me reste combien
de temps? Oui, il reste 30 secondes.
30 secondes. Donc, en conclusion, ils n'ont pas réussi à répondre à la question « Est-ce que c'est le microbiote qui fait la santé ou est-ce que c'est la santé qui fait le microbiote? » Donc, la fameuse question de l'œuf ou la poule. Alors, ça va probablement être la prochaine question à laquelle il va falloir répondre.
Le portrait de ce que serait un microbiome intestinal en santé se précise et c'est du journaliste Jean-Benoît Legault qui travaille à la presse canadienne. Donc, ses articles se trouvent sur différentes publications, dont Le Nouvelliste le 30 décembre. Et j'ai trouvé aussi le texte dans l'actualité sur le site de l'actualité.com. Ça a été publié le 18 décembre. Merci, Isabelle.